Actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, l'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur l'accord conclu samedi en République démocratique du Congo, un accord signé entre la majorité présidentielle et le rassemblement de l'opposition. En substance, vous le savez, Joseph Kabila restera au pouvoir une année supplémentaire. En contrepartie, le Premier ministre sera issu de l'opposition. Le problème, c'est que plusieurs questions restent en suspens, notamment la composition du gouvernement ou encore la composition du comité qui sera chargé de veiller à la application de cet accord, et certains opposants ont refusé jusqu'à présent de signer ce document. Du coup, eh bien, la majorité présidentielle réclame davantage d'inclusivité. Bref, vous l'avez compris, tout n'est pas encore réglé. D'où le débat ce matin. On a envie de vous entendre évidemment sur les différents points de blocage. 33 9 693 693 70. Vous nous rejoignez également sur les réseaux sociaux. Vous continuez à poster vos commentaires sur la page Facebook, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, à cette heure-ci, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous connaissez le principe, hein, s'il vous manque des clés, des éléments pour mieux comprendre les sujets traités dans nos différents journaux, eh bien vous nous appelez, c'est tout simple, 33 9 693 693 70, et la rédaction vous répond en direct. D'ailleurs, Anne Cantner du service Afrique des RFI est déjà à mes côtés. Bonjour Anne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On vous a demandé de nous rejoindre ce matin car on a reçu des questions concernant le Nigeria et la lutte contre le groupe islamiste Boko Haram. Mouktar, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez
à l'équipe de RFI et à ses millions d'auditeurs dans le monde jusqu'à Sylgame.
Eh bien, on vous souhaite également une très belle année 2017, Mouktar. Vous nous appelez de Conakry, en Guinée. Quelles sont vos questions?
Nous avons suivi sur différentes ondes et des réseaux sociaux des déclarations du gouvernement nigérien sur l'élimination de Boko Haram et des images vidéo de leur chef Aboubakar Shekaoui apportant un démenti formel à ces déclarations. Alors, ma première question, que faut-il croire entre ces différentes allégations? Ma deuxième, est-ce que l'armée nigériane dispose des capacités et la vraie volonté d'éliminer Boko Haram? Je vous remercie.
Eh bien, surtout ne raccrochez pas. C'est vrai, Anne Cantner, on a du mal à y voir clair. Le président Buhari, donc le président nigérian, annonce que son armée a repris le contrôle de la forêt de Sambisa, qui est le bastion historique des islamistes de Boko Haram. Quelques jours plus tard, leur leader, leur chef, Aboubakar Shekaou, dément l'information. Qui livrait, le pouvoir nigérian ou Aboubakar Shekaou?
Bah, comme toujours dans ces cas-là, la guerre se joue aussi au niveau de la communication. Aboubakar Shekaou a intérêt à minimiser l'annonce des autorités nigérianes, d'autant plus qu'il est contesté par une partie du groupe terroriste. Il faut se souvenir qu'il y a quelques mois, l'organisation État islamique a désigné un nouveau chef pour la région. Et depuis, Boko Haram est un peu divisé entre cette branche et ceux qui sont restés fidèles à Aboubakar Shekaou. Donc voilà, d'abord, il y a une annonce choc hein, quand même du président nigérian, juste avant la fin de l'année, alors que le pays va mal et le timing n'est sans doute pas anodin. Mouhamadou Bouhari a utilisé des mots vraiment forts. Il était catégorique, il a parlé d'écrasement de Boko Haram. C'est certainement un peu trop optimiste.
Et il a par ailleurs annoncé que l'opération militaire avait permis de capturer 500 combattants, information invérifiable à l'heure qu'il est. La prudence, en tout cas, Anne Cantner, est de rigueur, d'autant que ce n'est pas la première fois que l'armée ou les autorités du Nigeria annoncent des victoires contre Boko Haram. Et souvent, on se rend compte, bien plus tard, que ces succès étaient exagérés.
Oui, l'armée nigériane, par exemple, a annoncé à plusieurs reprises la mort d'Aboubakar Shekaou. Et à chaque fois, le chef de Boko Haram les a fait mentir en réapparaissant dans des vidéos. D'ailleurs, dans son message publié la semaine dernière, il nargue les autorités du Nigeria en disant « Si vous nous avez écrasés, comment pouvez-vous me voir? Combien de fois nous avez-vous tués ?» en se moquant donc des fausses annonces sur sa mort. Les succès de l'armée nigériane sont de toute façon impossibles à vérifier parce qu'en fait, l'accès au nord-est du pays, à cette région, est strictement contrôlé par les militaires et par le gouvernement depuis plus d'un an. Les journalistes ne peuvent pas s'y rendre. D'ailleurs, souvent, lorsqu'il y a une opération militaire, les réseaux téléphoniques sont coupés, donc on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment. Alors, qui croire, honnêtement, Mokhtar, c'est très difficile de le dire. Et sans doute qu'il faut nuancer un peu des deux côtés. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose d'important fin décembre. L'armée nigériane semble effectivement avoir repris du terrain. D'ailleurs, à partir du 19 décembre, des militaires camerounais aussi ont été mobilisés. Ils ont été envoyés dans la région pour sécuriser la frontière et pour éviter que les combattants de Boko Haram ne se replient au Cameroun en quittant la forêt de Sambisa.
Alors justement, Mokhtar nous demandait si le Nigeria avait vraiment la capacité d'éliminer les combattants de Boko Haram et surtout d'interpeller leur chef, en tout cas celui qui se présente encore comme leur chef, Aboubakar Shekau.
Pour l'instant, le Nigeria a repris le contrôle d'une base, une grande base de Boko Haram, mais pas de toute la forêt de Sambisa. D'ailleurs, ça paraît assez impossible d'imaginer que les militaires puissent un jour contrôler vraiment cette forêt quand on sait à quoi elle ressemble. D'abord, c'est immense, presque 60 000 km². C'est quasiment un petit pays. La forêt de Sambisa, par exemple, est aussi grande que le Togo.
Ah oui.
Et en plus, l'environnement est très hostile. Des petits arbustes, des épineux. Pendant la saison des pluies, on voit se former des marécages. Mmh. Et comme les terroristes ont miné la zone et fait sauter plusieurs ponts, il est vraiment très difficile pour l'armée de progresser dans cette forêt.
Donc c'est un sanctuaire idéal finalement pour les djihadistes, cette forêt.
Oui, oui, c'est idéal. Ça fournit beaucoup de cachettes. Il y a des grottes dans la forêt de Sambisa que l'armée a beaucoup de mal à visiter. Et en plus, Boko Haram se déplace très facilement. C'est une des grandes forces du groupe terroriste depuis le début. Et Aboubakar Shekau dispose d'appuis solides encore dans la région. Donc, pour presque tous les analystes, on est encore loin de la fin de Boko Haram. Le groupe terroriste est obligé de se déplacer, de reculer en ce moment, mais il est encore solide. Et de toute façon, l'armée nigériane seule ne pourra pas éliminer Boko Haram parce que les combattants se déplacent dans toute la région du lac Tchad. Ils ont encore attaqué le sud-est du Niger il y a deux jours. Il y a eu un attentat suicide dans le nord du Cameroun à Noël. Donc, on pourra parler de la fin de Boko Haram quand le groupe aura disparu de tous les pays de la région.
Oui, rappelons-les, le Nigeria, le Niger, le Tchad, le Cameroun, puisque le lac Tchad est à cheval entre ces quatre pays. Merci beaucoup Anne Cantner. Mokhtar, on a répondu à vos questions.
Parfaitement, je vous en remercie.
Eh bien, bonne journée à vous.
Une agréable journée.
Et également à vous, bonne journée à Conakry. Vous nous appelez de la commune de Ratoma, pour être très précis. On salue tous ceux qui ont l'oreille scotchée à leur transistor en écoutant RFI chaque matin dans cette commune. Il est 9h17 ici à Paris. Ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. Aliou, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez du sud de la Mauritanie. Vous êtes à Bogué, à la frontière sénégalaise. Et vous avez des questions concernant les relations entre le Maroc et la Mauritanie.
Effectivement.
Eh bien, on vous écoute, allez-y.
Étant donné que le Maroc tente d'apaiser les tensions avec la Mauritanie pour éviter une crise diplomatique, une délégation officielle marocaine était à Nouakchott pour dissiper tout malentendu. Les propos tenus par un leader politique marocain. Ma question est de savoir si cet embarras politique peut fragiliser les relations diplomatiques entre la Mauritanie et le Maroc.
Ouais. On rappelle tout de même qu'au cours d'un meeting, Hamid Chabat, ce leader politique dont vous parliez à l'instant, a déclaré que la Mauritanie était une terre marocaine. Autant dire qu'à Nouakchott, ses propos ont été unanimement condamnés. Bonjour Houda Ibrahim.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vu le tollé général soulevé par ses propos, Hamid Chabat a présenté il y a quelques jours ses excuses au peuple mauritanien, aux autorités mauritaniennes. Ce qu'il faut dire déjà à notre auditeur, c'est que les relations entre les deux pays étaient déjà tendu.
Bien sûr, mais rappelons d'abord ce contexte dans lequel Hamid Chabat a parlé. Il parlait de l'histoire et il parlait du Sahara occidental. Et dans ce cadre-là, il a dit qu'à l'origine, même la Mauritanie était une terre marocaine. Ce qui est quelque part dans l'histoire vraie, parce qu'il y avait un sultan et on disait, les historiens parlent aujourd'hui que le Maroc s'étendait jusqu'au fleuve Sénégal, etc. On parle pas d'aujourd'hui, c'était avant Saint-Picot, avant les frontières de 62 et avant la reconnaissance du Maroc, de la Mauritanie officiellement avec les frontières d'aujourd'hui en 68.
Et d'ailleurs Hamid Chabat a dit, lorsqu'il a présenté ses excuses, que ses propos étaient sortis de leur contexte et qu'il fallait resituer évidemment cette phrase dans son argumentation historique. En tout cas, on a bien vu rapidement que le Maroc a dépêché à Nouakchott une délégation pour rencontrer le président mauritanien, donc c'était important pour le Maroc d'essayer de dissiper tout malentendu. début. Hein.
C'était très important, surtout que ce dossier qui a frôlé la crise diplomatique venait après plusieurs problèmes qui ont eu lieu entre les deux pays. Depuis l'arrivée, en fait, du président Ould Abdelaziz, Mohamed Ould Abdelaziz, c'est-à-dire depuis 2008. Et là, c'était beaucoup de dossiers qui n'allaient pas entre le pays. Donc, il était évident de dépêcher Ben Kiran, le premier ministre, qui est toujours en cours de la composition de composer son gouvernement. Donc, c'était vraiment une affaire urgente. Le roi lui-même a passé un coup de fil au président mauritanien pour essayer de dissiper ce malentendu, comme on a dit. Ces relations a connu des crises parce qu'on parle que la Mauritanie aujourd'hui est plus proche de l'Algérie que du Maroc. Il y a le problème du Sahara occidental qu'on a évité d'évoquer durant cette visite.
Mais on reproche justement, enfin les Marocains reprochent justement au président mauritanien d'être proche du Front Polisario, en tout cas dans l'esprit. On se souvient qu'il y a quelques mois, lorsque le président du Front Polisario est décédé, le président mauritanien a décrété 3 jours de deuil national en Mauritanie, ce qui a choqué les Marocains.
Et pas que ça, mais aujourd'hui le Maroc veut tourner la page et je pense aussi la Mauritanie. Parce que jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a un ministre marocain, Nasser Bourita, qui est toujours présent en Mauritanie. Ah oui. Il a rencontré à nouveau le président mauritanien, il a rencontré des ministres, il a rencontré les chefs des partis politiques et il a essayé d'écouter les critiques de Mauritaniens par rapport à ces relations. Qu'est-ce qui ne va pas? Et apparemment, il a écouté beaucoup de choses, et beaucoup de critiques. Et parmi les critiques, c'était la présence de l'opposition mauritanienne aujourd'hui au Maroc, sur le territoire marocain. Et cela, un peu pour la Mauritanie, n'est pas acceptable aujourd'hui. Et pour faire plus et pour essayer que ces relations se remettent sur le rail, ce même ministre va se rendre très bientôt, peut-être même aujourd'hui, en Gambie, avec un responsable mauritanien pour présenter une initiative marocano-mauritanienne pour essayer de faire avancer les choses dans ce pays.
Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Houda Ibrahim. Vous êtes en Mauritanie, vous nous écoutez au Maroc, vous avez envie de réagir évidemment aux relations tumultueuses entre les deux pays. Appelez-nous, nous vous donnerons la parole vendredi puisque vous le savez, le vendredi, c'est la Libre Antenne. Vous commentez l'actualité de votre choix. Il est 9h22 à Paris. N'oubliez pas dans 20 minutes maintenant notre débat du jour sur l'accord signé samedi soir, entre l'opposition congolaise et la majorité présidentielle. 33 9 693 693 70, et vos réactions également par courrier électronique appel au pluriel .actu@rfi.fr. Avons-nous Moussa qui nous appelle de Bamako? Moussa, vous êtes avec nous, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de RFI, particulièrement à tous les étudiants de l'École Normale Supérieure de Bamako.
Très bien, l'École Normale Supérieure de Bamako, on les salue au passage. Vous avez des questions concernant le premier procès en France dans l'affaire dite des biens mal acquis.
Oui, Juan Gomez, le fils du président équato-guinéen a été jugé lundi par la justice française pour détournement de biens mal acquis. Alors, je voulais savoir, en quoi la France est-elle compétente à juger ce type d'affaires?
Ah, bonne question. C'est vrai que le procès s'est ouvert lundi devant le tribunal correctionnel de Paris en l'absence, rappelons-le, du prévenu. En tout cas, Théodorin Obiang est poursuivi, entre autres, pour détournement de fonds publics et corruption. Bonjour Carole Valade.
Bonjour Anne, bonjour Moussa.
Vous êtes en direct du tribunal correctionnel de Paris, vous suivez ce procès. D'abord, expliquez-nous effectivement pourquoi la France est compétente pour juger le vice-président équato-guinéen qui n'est autre que le fils du chef de l'État.
Tout à fait, bien, c'est une excellente question parce qu'elle est vraiment au cœur de ce procès. Et pour y répondre, en fait, il faut revenir aux origines de l'affaire. L'origine, c'est-à-dire en 2007, lorsque une ONG française, le CCFD Terre Solidaire, publie un rapport sur les biens mal acquis. Et ce rapport, en fait, il dénonce l'enrichissement personnel de dirigeants ou de leurs familles qui puisent dans les caisses de l'État pour s'acheter des maisons, des voitures, des bateaux, enfin toutes ces choses qu'ils ne pourraient normalement pas payer avec leur salaire officiel. Et c'est sur ce rapport donc que se basent plusieurs ONG de lutte contre la corruption pour déposer la même année une première plainte en France qui vise les familles dirigeantes de l'Angola, du Burkina Faso, du Congo-Brazzaville, du Gabon, mais aussi donc de la Guinée équatoriale.
Tous ces pays, en tout cas, sont des pays souverains qui ont leur propre système judiciaire, donc.
Oui, mais les associations, elles, soulignent que ces biens, donc présumés mal acquis, ils ont été achetés en France et que la loi française permet de poursuivre les étrangers qui commettent des délits sur son territoire. Et elles estiment donc que la justice doit enquêter. Mais pourtant, en fait, c'est pas cet argument que vont retenir les juges, puisque cette première plainte a été classée sans suite par le parquet en raison de pression politique, diront les ONG. Mais ce qui va véritablement faire basculer les choses, c'est une décision historique vraiment de la Cour de cassation en date du 9 novembre 2010, un arrêt qui dit que la plainte des ONG est bel et bien recevable parce qu'elles ont subi un préjudice. C'est-à-dire en fait que les détournements de fonds publics, s'ils sont avérés, eh bien, leur ont causé du tort. Pourquoi ? Parce que leur mission, c'est justement de lutter contre la corruption.
Et c'est ce qui a permis donc l'ouverture d'une enquête, puis la saisie de nombreux biens. On se souvient encore de cette saisie spectaculaire menée par les enquêteurs en octobre 2011 devant les caméras de télévision, saisie de l'hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris, quartier chic de la capitale française, saisie de 18 voitures de luxe, de nombreuses œuvres d'art. En tout cas, Carole Valade, les avocats de Théodorin Obiang contestent toujours la légitimité du procès. Ils maintiennent d'ailleurs que la France n'est pas compétente pour juger des faits qui se seraient produits en Guinée équatoriale. Ils affirment également que le fils du président bénéficie de l'immunité diplomatique. Moussa, vous avez une dernière question sur ce dossier.
Oui, Ron Gomez, en cas de condamnation, quel est le terme que le monsieur peut courir?
Alors, Carole Valade.
Eh bien, en fait, c'est un peu difficile à dire à l'heure actuelle, hein, mais au maximum, la peine pourrait aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et au moins 1 million d'euros, bien sûr en fonction des charges qui seront retenues et peut-être même plus, hein, s'il y a des circonstances aggravantes. Mais tout ça, ça semble vraiment encore loin, hein, puisqu'on n'a pas entamé le fond de l'affaire et, on l'a dit, hein, il a fallu près d'une décennie pour que ce procès débute. Et même si au terme de la procédure, Théodorin Obiang est effectivement condamné, eh bien, il pourra toujours faire appel, puis ensuite se pourvoir en cassation. Et tout cela, ça peut prendre encore des années. S'il est définitivement condamné, le plus probable, c'est quand même que le tribunal prononce une peine de prison avec sursis, parce que le prévenu n'a pas encore d'antécédent en France. Et donc, il resterait une éventuelle amende ou la restitution des biens. Et ça, c'est exactement pour ça que le tribunal vient d'examiner, en fait, une demande de renvoi de la part des avocats, parce que le bien le plus important de Théodorin Obiang en France, c'est cet hôtel particulier de 4000 mètres carrés dans le 16e arrondissement, le plus chic, hein, de Paris, pour une valeur, tenez-vous bien, Moussa, de 107 millions d'euros. Sauf que le problème, c'est que la Guinée équatoriale a entamé une action contre la France auprès de la Cour internationale de justice, qui est donc la plus haute juridiction des Nations Unies, et que cette Cour, elle a demandé à la France de ne pas confisquer l'immeuble pour l'instant. Et la décision vient de tomber là, à l'instant. Le tribunal a décidé donc de reporter la suite du procès.
Ah, donc vous confirmez, le tribunal reporte le procès. C'est vrai qu'on attendait ce matin la décision du tribunal, puisque les avocats du vice-président équato-guinéen demandait un report du procès pour insuffisance de délai. C'était les raisons invoquées. Donc vous le confirmez, Carole Valade, procès reporté. Donc l'affaire risque encore de s'éterniser. Merci d'avoir été avec nous, Carole Valade, en direct du tribunal correctionnel de Paris. Moussa, bonne journée à Bamako. Ce sont vos questions à la rédaction. Vous continuez évidemment à nous rejoindre, à nous appeler 33 9 693 693 70. Je jette un coup d'œil sur la pendule. Il nous reste à peine 1 minute 30, donc on va pas prendre d'autres questions. Ce serait dommage de bâcler les explications et les réponses. En tout cas, sachez que tout au long de la journée, le standard reste ouvert. Vous nous envoyez vos questions, nous les épluchons, nous les décortiquons et nous faisons évidemment le maximum pour y répondre le plus rapidement possible avec nos experts ici à Paris au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Vous nous envoyez également vos questions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission, sans oublier de nous envoyer en message privé votre numéro de téléphone, car le principe de cette émission, vous le savez, c'est de vous donner la parole, c'est de vous entendre. Et on vous entendra d'ailleurs juste après le journal dans 10 minutes sur l'accord signé samedi en République démocratique du Congo entre la majorité et l'opposition. Il a fallu 3 semaines de tractations difficiles pour que les deux camps trouvent enfin un compromis sur la gestion du pays. Vous savez que Joseph Kabila, dont le deuxième et dernier mandat s'achevait le 20 décembre dernier, va pouvoir rester en fonction jusqu'à l'élection de son successeur. Théoriquement, l'élection devra avoir lieu dans les 12 prochains mois, donc au plus tard décembre 2017. Aucune date n'a été fixée. En tout cas, l'opposition obtiendra le poste de Premier ministre. On s'annonce, on se dirige donc vers une année 2017. 2017 de transition en RDC. Vos réactions évidemment au 33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent.
Priorité santé.
Claire Hédon.